Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur les mécanismes fascinants, oui, du voyage spatial dans l'univers de Spatiopolis.
Tout à fait.
On va s'appuyer sur les infos qu'on a trouvées dans le document voyagerspatiopolis.pdf.
Oui, c'est ça.
L'objectif, c'est de décortiquer un peu comment on bouge entre les étoiles là-bas, que ce soit les sauts rapides ou les trajets plus classiques.
En effet, on va regarder les technologies, bien sûr, les infrastructures énormes comme les fameuses gates, mais aussi les règles, et puis les coûts, les dangers, parce qu'il y en a.
C'est tout un monde.
Ah oui, un écosystème assez complexe, en fait.
Notre mission alors, 1. Essayer de saisir les rouages de tout ça. Comment fonctionnent ces portails exactement? Est-ce qu'on peut tricher un peu? Et quels sont les risques? Les vrais risques, quand on sort des sentiers battus. Bon, accrochez-vous, on décolle pour analyser tout ça en détail.
Allons-y.
Alors, commençons par le plus spectaculaire, je pense. Les gates, les portes de saut quantique.
Oui.
Faut imaginer des trucs gigantesques en orbite, capables de relier deux points super éloignés.
Instantanément.
C'est ça. Parfois même sur plusieurs secteurs d'un coup.
C'est un peu comme des autoroutes cosmiques, mais ultra rapides.
Exactement. Ces gates, en gros, elles plient l'espace-temps.
C'est une prouesse technique qui demande une énergie colossale et une programmation hyper précise.
Et elles sont fixes, c'est ça?
Elles sont fixes, oui. Elles créent des routes stables, toujours les mêmes. Et le point crucial, c'est que tout le réseau est contrôlé par une seule boîte, Etherlink Transit Corporation.
Ah, Etherlink.
Voilà, officiellement, ils sont neutres, issus d'un consortium Elocienne et CNAIS. Mais bon, en réalité, ils sont quand même pas mal sous l'influence du conclave stellaire et du consortium commercial interspécifique.
Donc, pas si neutres que ça, peut-être?
Disons qu'ils ont le monopole absolu. Construction, maintenance, exploitation, tout.
D'accord. Et concrètement, si je suis capitaine de vaisseau, comment ça se passe pour utiliser une gateshed?
Alors, d'abord, il faut acheter un bon de saut. Un ticket, quoi, valide, auprès d'Etherlink.
D'accord.
Ensuite, tu t'identifies à la porte, tu attends ton créneau, il y a un saut toutes les 15 à 30 minutes à peu près.
Faut faire la queue, en somme?
Un peu, oui. Et après, tu passes le sas à vitesse contrôlée. Et là, hop, disparition ici, réapparition instantanée à l'autre bout.
Presque magique.
Presque. Mais ça a un coût.
J'imagine. Ça doit pas être donné?
Non, et ça varie beaucoup selon la taille du vaisseau. Ils ont des classes. De A, les petits, genre navettes, à E, les très gros, type dreadnought.
Et ça donne quoi en crédit?
Pour une petite classe A, c'est genre 400 crédits le bon de saut. Mais pour un classe E, là, c'est 10 000 crédits.
Ah oui, quand même.
Et attention, il y a aussi un coût de recharge moteur qui s'ajoute. C'est distinct du bon de saut. Ça va de 500 crédits pour A jusqu'à 12 000 pour E.
D'accord, donc double coût en quelque sorte. Faut bien prévoir son budget.
Exactement. C'est pas une dépense anodine.
Et qui vérifie tout ça? Qui s'assure que tout le monde paye et respecte les règles?
Etherlink a sa propre police privée, si tu veux. La division de sécurité transsectorielle, le petit nom c'est les inspecteurs d'Ether.
Les inspecteurs? Ça sonne sérieux. Contrebande, clandestin, tout ce qui n'est pas en règle.
Ils ont des scanners neutriniques, des pods d'inspection, ils peuvent monter à bord.
Et ils sont réputés comment?
Stricts.
Très strict.
Inflexible, c'est le mot. Enfin, les notes laissent entendre que dans les coins un peu paumés, la corruption, ça existerait peut-être.
Intéressant.
Ce contrôle total des gates, ça donne à Etherlink un pouvoir politique et stratégique énorme, tu vois.
Ah oui, ils tiennent les routes.
Exactement. Ils peuvent bloquer un secteur entier s'ils veulent. Ils enregistrent tous les passages.
Ça, c'est une info précieuse.
Qui serait revendue discrètement, d'après les sources. Et en cas de guerre, imagine, il isole une flotte, il paralyse le commerce d'une faction. C'est fascinant de voir comment le contrôle d'une techno devient un levier géopolitique majeur.
Posséder les autoroutes, c'est tenir les rênes, quoi.
En pleine ça.
Bon, ce monopole d'Etherlink a l'air solide, mais est-ce qu'il y a des failles? Les documents disent quelque chose là-dessus. Comment on pourrait passer entre les mailles du filet? Ok, déballons ça. Il y aurait des moyens de frauder?
Alors, oui. Les sources décrivent trois méthodes principales. Mais attention, chacune avec de gros risques.
Je m'en doute. Laquelle en premier?
La première, c'est la plus humaine, disons. Soudoyer un administrateur d'Etherlink.
Ah, la corruption!
Voilà. tenter de lui filer un pot de vin souvent une bonne partie du prix du bon, hein, genre 50 à 80% pour qu'il ferme les yeux ou qu'il magouille le système.
Et les risques ?
Ben, qu'il refuse déjà, qu'il te dénonce direct et là, mandat d'arrêt. Ou pire, qu'il fasse semblant d'accepter et que tu tombes dans une embuscade de la sécurité.
Ouch. Risqué, effectivement. La deuxième méthode.
La deuxième, c'est plus technique, le piratage. Faut être bon en hacking ou en électronique. Très bon même, parce que les systèmes Etherlink sont costauds.
Le but, c'est quoi ?
Créer un faux paiement.
C'est ça.
Injecter une fausse preuve de paiement dans leurs archives.
Mais si ça rate ?
Oui. Si ça rate, simplement ta tentative est bloquée, bon. Mais si c'est un échec critique, là c'est alarme générale dans tout le secteur et te trace direct, la sécurité débarque en force.
La totale quoi. Vaut mieux être sûr de son coup.
Clairement. Et la troisième méthode ?
Alors ?
C'est plus physique. Audacieux. Ça s'appelle sauter dans le sillage.
Sauter dans le sillage ?
Ouais. Mais ça marche que pour les petits vaisseaux, classe A ou B. L'idée, c'est de se coller discrètement derrière un très gros vaisseau, genre classe D ou E, pile au moment où il saute par la gate.
Et on espère passer inaperçu.
Dans sa signature énergétique, oui. C'est un pari sur les capteurs et la vigilance du contrôle. Le risque, c'est d'être repéré juste avant. Là, faut fuir dardard. Ou pire, se faire choper par un rayon tracteur de la station.
Pas simple non plus. Et même si on réussit à frauder avec une de ces méthodes, c'est bon, on est tranquille après ?
Pas forcément. Les notes disent bien qu'il y a souvent des conséquences après le saut.
Ah, lesquelles ?
Ça peut aller de rien du tout, coup de bol, à une prime mise sur la tête du vaisseau. Ou alors, Etherlink te met sous surveillance. Il flique toutes tes transactions futures.
Et le pire ?
Être carrément blacklisté par Etherlink dans tout le secteur. Là, fini les voyages faciles par les gates.
Donc, l'honnêteté, ça coûte cher. La fraude, c'est risqué, mais ça peut payer. C'est un sacré dilemme pour certains capitaines.
Absolument. Ça illustre bien cette tension constante entre le coût du système et la tentation de le contourner. Une tension économique et légale qui semble vraiment au cœur de la vie spatiale dans Spatiopolis.
Tout à fait. Mais bon, les gates, c'est impressionnant, mais c'est pas le seul moyen de voyager vite, hein.
Non, heureusement.
Les vaisseaux eux-mêmes, ils ont leur propre capacité de saut quantique. Et là, ça devient vraiment intéressant. C'est quoi la différence avec les gates, ou juste ?
Alors, le saut quantique du vaisseau s'arrose sur le même principe. Plier l'espace-temps pour aller d'un point A à un point B quasi instantanément.
Donc c'est pareil.
Non. La grosse différence, c'est que ça ne dépend pas d'une infrastructure externe, comme une gate. T'es autonome.
Ah, ça c'est bien.
Oui, mais, il y a un mais. Cette indépendance, elle a un coût. Ce type de saut, ça met une pression énorme sur le réacteur et sur la structure du vaisseau. Ça demande des calculs d'astrographie super complexes.
Faut un bon ordinateur de bord, quoi.
Et une énergie considérable pour charger le moteur. Et surtout, la portée et la fréquence sont limitées. Tu peux pas sauter à l'infini. Faut recharger entre chaque saut.
D'accord. Et ça prend du temps de préparer un saut comme ça ?
Ça dépend énormément du vaisseau. Un petit truc agile, une navette classe A, ça peut faire un blink, un saut quasi instantané, en quelques secondes.
Ah ouais, pratique pour fuir ?
Exactement. Idéal en combat. Mais à l'autre bout du spectre, un énorme cuirassé classe E, lui, il a besoin de plusieurs minutes pour calculer sa trajectoire et charger son moteur.
Et pendant ce temps, il est vulnérable ?
Très vulnérable. Il doit rester stable. S'il se prend des tirs ennemis pendant qu'il charge, ça peut interrompre le processus ou au moins le rallonger beaucoup.
D'accord. Et la distance qu'on peut franchir, le nombre de sauts avant de recharger, ça dépend aussi ?
Oui, directement de la classe, du vaisseau et de son moteur. Typiquement, une petite navette, elle ira moins loin en un saut, mais elle pourra peut-être en faire deux avant de devoir recharger. Alors qu'un gros croiseur, il ira beaucoup plus loin en un seul saut, mais il ne pourra en faire qu'un avant d'être à sec pour le suivant.
Logique. Et la recharge de ce moteur de saut ? J'ai vu dans les notes que ça coûtait cher en station.
Oui, et c'est marrant. Les coûts sont exactement les mêmes que pour la recharge moteur après un passage par une gate. De 500 crédits pour une classe A à 12 000 pour une classe E. C'est pas rien.
Une sacrée somme. Mais il n'y a pas d'autre moyen de recharger si on est loin d'une station ?
Si, si. Il est possible de recharger en utilisant certaines ressources qu'on trouve dans l'espace. Des gaz rares comme le xénozéphyr, le cryométhane ou des minéraux genre radionate.
Faut avoir l'équipement pour les récolter, j'imagine.
Oui, il faut pouvoir les collecter et les raffiner. C'est une recharge improvisée. Les sources parlent même d'une recharge pirate.
Recharge pirate ? Qu'est-ce que c'est ?
On ne sait pas trop, sûrement une méthode non conventionnelle, risquée, qui pourrait endommager le moteur ou le rendre instable, à éviter si possible, je pense.
Et il y a aussi des règles spéciales pour ces sauts, non ? J'ai lu un truc sur un saut d'urgence.
Oui, exact. Tu peux tenter de forcer le moteur à charger beaucoup plus vite, genre deux fois plus vite, mais c'est risqué.
Qu'est-ce qui peut mal tourner ?
Tu peux arriver complètement à côté de ta destination prévue, ou alors le vaisseau subit des dommages internes à cause du stress sur les systèmes.
D'accord. Et si on rate juste tes calculs ? Pas un saut d'urgence, juste un calcul normal qui foire.
Alors, tu as plusieurs tentatives. T'arrives. Ça ajoute juste du délai à la préparation. C'est frustrant, mais pas catastrophique. Par contre, l'échec critique, le scénario catastrophe,
oui.
Là, t'arrives complètement ailleurs, potentiellement dans un endroit dangereux et avec un vaisseau déjà endommagé par le saut raté.
C'est pas génial.
Clairement. Ça soulève d'ailleurs une question intéressante en termes de jeu ou même de stratégie pour un capitaine. Cette gestion du risque. Est-ce que je tente le saut d'urgence pour fuir au risque de me retrouver encore plus mal ou est-ce que j'essaye de tenir le coup pendant la charge normale en espérant que la coque tienne ?
Ouais. Des décisions pas faciles à prendre dans le feu de l'action. Ça doit donner des moments de tension incroyables.
C'est ça qui doit faire le sel des combats spatiaux dans cet univers, je pense.
D'accord. Donc, on a les gates, les autoroutes contrôlées. On a le saut quantique du vaisseau, rapide, indépendant, mais limité et risqué. Mais comment on fait pour les petits trajets ? Genre aller d'une planète à sa lune, ou entre deux systèmes voisins sans gate ?
C'est là qu'intervient ce que les sources appellent le voyage spatial classique.
Le voyage à l'ancienne, quoi.
Exactement. Avec la propulsion standard du vaisseau, à vitesse sous-luminique. Et là, le problème change complètement. C'est plus juste le carburant moteur, le souci principal.
Non. C'est quoi, alors ?
C'est la gestion des ressources vitales, pour l'équipage et les systèmes de survie. Les respirables, l'oxygène, les filtres CO2, l'eau potable, la nourriture, et l'énergie pour que tout ça fonctionne.
Ah oui, les consommables de base.
Voilà. Chaque vaisseau a une autonomie standard, définie en distance ou en durée, basée sur ses réserves. Et bien sûr, refaire le plein de tout ça en station, ça a un coût. Carburant plus ressources vitales. Ça va de quelques centaines de crédits pour les petits à plusieurs milliers pour les gros.
Logique. Mais est-ce qu'on peut tirer un peu sur les réserves, aller plus loin que l'autonomie prévue ?
Oui, c'est possible, mais pas indéfiniment. Les sources parlent d'une extension possible jusqu'à 50% de la distance ou de la durée de base.
50%, c'est pas mal, mais j'imagine qu'il y a un prix à payer.
Oui, un coût humain direct. Chaque unité de distance ou de temps en plus, au-delà de la norme, ça demande un effort à l'équipage. Rationnement poussé à l'extrême, conditions de vie qui se dégradent. Les notes parlent d'un test d'endurance physique pour l'équipage.
Et si on rate ce test ? Ou si on pousse encore plus loin que les 50%.
Si tu rates le test, tu prends un niveau de fatigue. Et si tu dépasses la limite extrême des plus 50%, là, ça devient vraiment critique. L'échec au test d'endurance inflige toujours de la fatigue, mais un échec grave peut même causer des blessures légères à cause des privations, du stress sur l'organisme.
La fatigue, d'après ce que j'ai lu, c'est sérieux, non ? C'est pas juste être un peu fatigué ?
Ah non, pas du tout. Chaque niveau de fatigue donne un malus à toutes les actions du personnage. Et à partir d'un certain seuil, 3 niveaux je crois, t'es incapacité, hors de combat.
Et comment on s'en remet ?
Il n'y a pas 36 solutions. Un ravitaillement complet dans une station ou un long repos dans des conditions correctes. Sinon, la fatigue s'accumule.
Donc, si on relie ça à la vue d'ensemble, la gestion des consommables, c'est pas juste de la compta, c'est une question de survie.
Absolument. Planifier son trajet, respecter son autonomie, c'est la base de la sécurité pour le voyage classique. Pousser les limites, c'est entrer dans une zone de danger progressif, voire mortel pour l'équipage. C'est le côté moins glamour, mais essentiel, du voyage spatial.
Alors, justement, pour éviter de finir en vaisseau fantôme à la dérive, où est-ce qu'on peut faire le plein ? Où trouver ces précieuses ressources ?
Heureusement, il y a pas mal d'options. Les stations commerciales, bien sûr. Là, on trouve de tout. Carburant, air, eau, nourriture. Bonne qualité, mais au prix normal. Il y a aussi les stations de maintenance, plus spécialisées sur le carburant, l'air et les réparations. Sur certaines planètes habitables, on peut trouver de l'eau, de la nourriture, parfois du carburant, mais c'est plus variable.
Et ailleurs ?
Moins officiel.
Les avant-postes miniers.
Ils ont souvent du carburant brut, moins cher. Et puis, il y a les vaisseaux ravitailleurs qui se baladent. Ils vendent surtout du carburant, mais les prix fluctuent et ils n'ont pas des stocks illimités.
Ok. Et si on est vraiment dans la panade? Loin de tout. Il n'y a rien à faire.
Si, il y a une option de dernier recours. Le ravitaillement sauvage.
Ravitaillement sauvage, c'est-à-dire?
C'est l'idée d'exploiter directement ce qu'on trouve dans l'espace. Récupérer de la glace sur une comète pour avoir de l'eau, extraire du gaz d'une nébuleuse ou d'une géante gazeuse pour le carburant ou l'oxygène.
Ah, c'est système D, quoi. Mais ça doit pas être simple.
Non, ça demande des compétences spécifiques. Survie, ingénierie, extraction. Faut l'équipement qui va bien. Des modules d'extraction, des systèmes de purification et idéalement les bonnes licences pour pas avoir d'ennuis si une patrouille te tombe dessus.
Et il y a des risques.
Bien sûr! Contamination des ressources, panne de l'équipement en plein milieu de nulle part, intoxication de l'équipage si la purification foire. C'est vraiment pour les situations désespérées ou pour les équipages très préparés.
D'accord. Et si on est carrément en panne sèche?
Ou en détresse?
Il y a un service de dépannage spatial?
Oui, il existe Vanguard de secours spatial. Ils peuvent livrer des packs d'urgence, un peu de carburant pour repartir, ou de quoi survivre 48 heures en eau et oxygène.
Ah, c'est bien ça! Mais...
Surtout, faut attendre qu'ils arrivent. Ça peut prendre des heures. Et pendant ce temps, t'es une cible facile dans l'espace.
Pas idéal. Une autre option?
L'appel à l'aide générale. Tu balances un message sur les canaux de communication, tu demandes de l'aide aux autres vaisseaux qui passent.
En espérant que quelqu'un réponde et soit sympa.
Voilà. Tu peux proposer un échange, un service, ou juste faire appel à la solidarité. Le succès dépend de ta persuasion, mais surtout... de qui va répondre.
Oui, j'ai vu ça dans les notes. On peut tomber sur un bon samaritain.
Le top. Altruiste, il aide sans rien demander, ou presque.
Ou un commerçant pragmatique.
Lui, il aide, mais faut payer ou rendre un service équivalent. C'est donnant-donnant.
Mais on peut aussi tomber sur un opportuniste.
Qui va essayer de profiter de ta faiblesse pour te faire payer le prix fort, voire te dépouiller un peu.
Ou pire, un vautour.
Oui, ou carrément des pirates, attirés par un appel de détresse qui signale une proie facile. Lancer un SOS, c'est un peu jouer à la roulette russe cosmique.
Bonne image. On voit bien la gradation. Oui. Le service officiel, cher mais fiable. L'entraide, aléatoire. La survie en solo, pour les experts ou les désespérés.
C'est tout à fait ça.
Bon, imaginons qu'on a réussi, on a fait le plein, on a évité les pirates, on arrive enfin à destination. Un astroport classique, les descriptions en font de vraies petites villes, non? Très organisées.
Oui, c'est exact. Un astroport typique, c'est structuré. Plusieurs zones. D'abord, la zone administrative.
La paperasse.
C'est ça. Enregistrement du vaisseau, achat des bons de saut Etherlink, les douanes, les migrations locales. On trouve aussi les banques, les assurances, les coms longue distance.
Ensuite,
la zone technique et logistique. Indispensable. C'est là que tu fais le plein, les réparations, que tu achètes des pièces, des nouveaux modules pour ton vaisseau. Et c'est là aussi que tu gères le fret, les entrepôts.
Ok. Et pour les affaires?
Zone marchande. Tu peux y chercher des contrats, des missions légales, consulter les cours des marchandises sur les réseaux comme Elix Trade Network, acheter de l'équipement pour toi et ton équipage, parfois même des boutiques de luxe.
Et pour se détendre après un long voyage?
La zone vie et loisirs. Cantina, bar, hôtel pour se reposer, parfois des casinos, des stations médias pour avoir les nouvelles fraîches du GNN, le Galactic News Network.
Essentiel pour le moral de l'équipage, j'imagine.
Complètement.
Et les notes suggèrent qu'il y a souvent une autre zone.
Un peu plus discrète.
Ah oui?
La facette moins reluisante, mais souvent présente. Le marché noir.
C'est ça.
Tu peux y trouver des contacts pour des missions, moins légales. Des vendeurs d'armes spéciales, d'artefacts interdits, des prêteurs sur gage un peu louches. L'astroport, c'est vraiment un carrefour où tout se mélange. Le légal et l'illégal.
Un vrai microcosme de la galaxie. Alors, concrètement, comment ça se passe quand on arrive? Le contrôle, l'accueil?
En général, quand t'approches, tu reçois un message automatique. On te demande d'activer ton transpondeur.
L'idée du vaisseau, traçable?
Exactement. Et de transmettre ton manifeste de bord.
Le manifeste, c'est la clé, j'imagine.
C'est le document essentiel pour les autorités du port. Dedans, il doit y avoir l'identité du proprio, le type de vaisseau, le plan de vol et surtout, la liste détaillée de la cargaison et des passagers.
Et la douane vérifie tout ça?
Oui, soit automatiquement, soit avec un agent. Il check les infos, il cherche s'il n'y a pas de mandat d'arrêt sur le vaisseau ou l'équipage. Et, point très important, il vérifie si tu as les bonnes licences pour ce que tu transportes.
Ah, les licences. Encore de la paperasse! Il en faut pour tout!
Presque. Il y a la licence de négo standard pour les trucs courants, mais après, il faut des licences spécifiques pour les équipements avancés, armes, cybernétiques, pour les ressources brutes, pour le médical, la biotech, pour les artefacts rares, même pour les services comme les croisières ou la sécurité privée.
Et si on n'a pas la bonne licence?
Ça peut aller d'une simple amende à la saisie de la cargaison, voire l'arrestation de l'équipage si c'est grave. Faut pas rigoler avec ça.
Donc l'interaction avec la douane, ça dépend de si on est en règle ou pas.
Exactement. Cas numéro 1. Tout est nickel. Manifeste OK, licence OK, pas de mandat. Là, contrôle rapide, accès autorisé, terminé.
Et s'il y a un petit souci, une petite anomalie?
Cas numéro 2. Là, tu vas discuter avec un agent. Problème mineur sur votre enregistrement, il y a peut-être moyen de payer une amende, une taxe, de négocier un peu. C'est une tension modérée.
Et le cas 3, la situation critique. Contrebande, faux transpondeur, équipage recherché.
Ah là, c'est plus la même musique. Alarme générale, déploiement de la sécurité, le vaisseau peut être bloqué, immobilisé. Et ça devient une scène tendue. Négociation sous pression, assaut ou tentative de fuite désespérée.
Ça peut vite dégénérer.
Très vite.
Et un point qui m'a semblé super important dans les notes, le style du contrôle, la sévérité. Ça dépend énormément de qui contrôle l'astroport, politiquement parlant.
Ah oui, c'est crucial. L'Union galactique, par exemple, est décrite comme très stricte, très formelle, très procédurière.
Ok.
Les mondes non alignés, CMNA, c'est très variable. Ça peut aller du laxisme total à une sévérité extrême, parfois avec de la corruption.
Et le syndicat d'Omicron?
Souvent, laxiste et corrompu, d'après les sources. Plus facile d'y faire passer des trucs illégaux, si tu payes.
Et les stations indépendantes?
C'est tout ou rien. Chacune a ses propres règles. Et puis, tu as des endroits spéciaux, comme les archives galactiques, qui font des inspections hyper ciblées sur les données, les artefacts.
Donc, le lieu d'arrivée change tout. Faut bien choisir où on accoste.
Avoir un manifeste en règle, c'est la base. Mais même avec ça, une petite erreur peut devenir un gros problème, ou le début d'une nouvelle galère. Ou d'une aventure, ça dépend comment on voit les choses.
Eh bien voilà qui dresse un tableau incroyablement riche et complexe de l'écosystème du voyage spatial dans Spatiopolis. C'est fascinant.
Oui.
On a vu les gates, ces monuments contrôlés par une corpo quasi toute puissante, les sauts quantiques des vaisseaux, plus libres, mais pleins de contraintes et de risques, et puis les défis très terre à terre, enfin espace à espace, du voyage classique avec la gestion vitale des ressources.
Sans oublier le ravitaillement, l'importance de trouver le bon endroit au bon moment, l'animation, la complexité des astroports qui sont de vrais carrefours.
Et cette pression constante des contrôles, de la bureaucratie, c'est un univers où la technologie ouvre des possibilités dingues, mais où les règles, les coûts, les dangers sont, omniprésents.
Ce qui ressort vraiment, je trouve, c'est cette tension. Constante. Entre la technologie qui repousse les limites, qui défie les distances cosmiques, et les contraintes très matérielles, très humaines qui restent. Le besoin d'énergie, la fragilité de la vie face au vide et à l'épuisement des ressources, le poids de la paperasse, des licences, des manifestes.
Le coût de chaque chose.
Le coût de tout, oui. Et l'insécurité, face aux pirates, aux accidents, même aux autorités parfois. Chaque voyage, c'est un calcul permanent, une gestion de risque. Et on voit bien comment la dépendance aux infrastructures, comme les gates, et le respect ou le non-respect des lois façonnent toute l'expérience du voyageur interstellaire.
Et ça nous amène à une dernière pensée. Une question qui me reste, après tout ça.
Je t'écoute.
Aller toujours plus loin.
Bonne question.
Au-delà du commerce, de la guerre, de la politique, qu'est-ce qu'il y a comme motivation assez forte pour justifier de braver les inspecteurs d'éther, de risquer un saut quantique raté, de frôler l'asphyxie dans le vide ou d'affronter l'inconnu dans l'espace profond? Qu'est-ce qu'il y a là-bas, au-delà des cartes, qui vaille tous ces efforts, tous ces risques?